Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
On your mark.
Salut à tous, tout au long des JO, l'heure olympique a reçu des médaillés français. Aujourd'hui, je vous propose de vous replonger dans les meilleurs passages des invités du podcast. Retrouvez entre autres Romain Canon, Isaora Tibus, Sarah Léonie Sizik ou encore Enzo Lefort. Ils nous ont fait vibrer et sont venus nous le raconter. Bonne écoute. Dans la séquence retour de Tokyo, on reçoit aujourd'hui notre premier champion olympique, Romain Canon à l'épée. Salut Romain.
Hello, salut.
Comment se construit cette journée? Parce qu'on va rappeler aux gens qui nous écoutent, tu n'es pas en individuel au départ, tu arrives. À quel moment tu te dis, ah bah peut-être que là, je peux devenir champion olympique? Est-ce que c'est dès le début, il y a ce rêve au fond de toi, cette ambition? Ou est-ce que c'est au fil de la journée et à quel moment ça devient une réalité, te dire, ah là, je prends conscience que quelque chose de gros est en train d'arriver?
Ben, je pense que quoi qu'il se passe, déjà aller au jeu, en fait, ça montre que tu t'es entraîné pour gagner les jeux. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte parce que voilà, on a beau avoir un classement. Tout le monde, en fait, le jour J peut gagner les jeux. On le voit, c'est un peu la magie des jeux. Moi, je l'ai vécu du plus haut niveau, mais comme aussi avec l'équipe. Et je pense qu'en fait moi j'y suis vraiment y allé en n'ayant pas de regrets. Je le dis souvent, mais voilà, parce que on fait beaucoup de travail mental, on a des habitudes d'échauffement, des façons de manger pendant les matchs, des façons de se préparer, ça on les garde et en fait ça s'amplifie parce que plus tu es à l'aise avec toi-même et plus tu es en confiance avec toi-même, plus c'est facile d'avoir ces automatismes et d'être vraiment concentré dans le présent, quoi.
Est-ce que tu mesures quand même l'énormité de ce que ça veut dire champion olympique? Est-ce que les jours passants, ça prend une consistance différente pour toi?
Alors, pour moi, c'est vrai que ça a toujours été champion olympique. Dans ma tête, ça a toujours résonné. Je veux dire, c'est un rêve que tu es jeune, depuis que tu fais du haut niveau. Du coup, c'est vrai que tu mets ça quand même. Moi, c'est le Graal d'être champion olympique. Après, le réaliser, en fait, c'est compliqué dans le présent de dire tu es champion olympique aujourd'hui, quoi, en fait. Ou juste après la compète, dire non, mais c'est bon, tu as ton diplôme, tu es champion olympique. Parce que tu le rêves tellement, en fait. Ouais. Que c'est voilà, il faut faire un peu la part des choses et en plus tu as toutes les émotions qui restent là-haut, du coup quand elles descendent toujours pas, t'es toujours là-haut, quoi.
Ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais tu as la médaille autour du cou. Moi j'adore imaginer, voilà, elle est magnifique. Ce que va être la suite, elle va aller où la médaille maintenant? Parce qu'à un moment il va bien falloir que tu la retires autour de ton cou.
Oui, alors ouais, c'est vrai que j'ai quand même dormi avec, mais où la mettre, c'est la bonne question. Je pense que je vais quand même faire un petit tour avec, enfin, je vais voyager avec elle. Parce que voilà, j'ai de la famille à aller voir, des amis à aller voir. Mais c'est vrai qu'à la fin, je ne sais pas, je pense que je la garderai quand même à la maison, le mettre au coffre, comme beaucoup de gens.
En tout cas, ce n'est pas une légende. Les sportifs dorment avec leur médaille. On les imagine très bien, la médaille autour du cou avec leur petit pyjama pour savourer encore plus ce moment. Merci, Romain Canon. Dans notre séquence Retour de Tokyo, on reçoit aujourd'hui, et c'est un privilège, Isaora Tibus. C'est la première médaillée qu'on reçoit dans le podcast, et on ne va pas se cacher, ça nous fait extrêmement plaisir, comme je le disais. Salut Isaora.
Coucou à tous, je suis hyper contente d'être là.
Bah nous, écoute, on est très très heureux de te recevoir. Médaillée d'argent au fleuret par équipe avec, on va citer aussi tes coéquipières, hein, Anita Blaz, Pauline Ranvier et Astrid Guyard. Alors nous, je disais, c'est la première médaillée qu'on reçoit dans le podcast. Elles sont comment les médailles? On dit qu'elles sont lourdes, c'est vrai?
Elles sont plutôt lourdes, franchement, ouais, il faudrait que je la pèse. Et elles sont trop trop belles. Et il y a l'inscription aussi de son sport et juste en dessous. Donc pour l'instant, elle n'a pas une égratignure. Je sais que Pauline a déjà écorché la sienne. Donc je vais essayer de la préserver. Non, elle est trop belle, je suis trop contente.
Depuis que vous l'avez eue autour du cou pour la première fois, vous ne l'avez pas quittée, j'imagine?
J'ai dormi avec, je me suis touchée avec. Non, si, si, on l'a quand même quittée. Puis ce que j'aime bien, c'est aussi la passer aux autres, la voir. Enfin, quand ils la voient et qu'ils la prennent dans leurs mains et tout, c'est un peu partager la victoire avec eux. Donc elle a déjà passé pas mal de mains.
Ça fait pas un surplus bagage dans l'avion, ça, avec le poids que ça pèse?
Ah non, je la mets pas, je la garde dans mon sac à dos.
Tu la mets pas en soute, ouais.
Ah ouais, non, ça.
Tu la mets pas en soute, c'est mort.
Donc on le rappelle, hein, cette finale malheureusement perdue face à la Russie assez nettement. À l'issue de la finale, tu as déclaré, avec le recul, on saura savourer cette médaille. Est-ce que c'est le cas désormais?
Oui, parce que bon, forcément sur le moment on est déçu et on se dit qu'on aurait pu faire mieux. On n'a pas pu s'exprimer complètement et on aurait pu, je pense, avoir un combat un peu plus serré en tout cas et leur donner plus de difficultés. Par contre, c'est très difficile d'avoir une médaille. Moi, je pars de ce principe-là. C'est très difficile d'aller au jeu et de décrocher une médaille. Donc, j'étais très, très fière de ce que les filles ont fourni comme effort. On sortait vraiment de loin en demi-finale. Donc, on a été arracher cette médaille et il y a beaucoup de fierté à l'avoir. Et je suis très privilégiée d'être médaillée olympique.
Maxime, Laurent ?
Oui, Isaura, on a... déjà beaucoup parlé, nous, dans le podcast de l'escrime, évidemment, tout au long de la semaine, et notamment de vous, les filles du fleuret. Et moi, j'ai eu l'occasion de dire à quel point j'étais très heureux que vous ayez, j'allais dire, enfin décroché une médaille. Il faut le rappeler, c'est dans votre arme la première depuis 1984 à Los Angeles. Et moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. D'abord, toi qui es dans cette équipe depuis quelques années maintenant, est-ce que cette image que le fleuret féminin a un peu traîné pendant quelques années de maillon faible de l'équipe de France, est-ce que c'est quelque chose qui t'a pesé? Moi, je sais que j'ai souvenir d'une interview avec Astrid Guillard avant les Jeux de Londres qui était très agacée par rapport à ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a pesé ou même qui flottait même de manière un peu inconsciente comme ça sur le groupe, ou est-ce que avec les médailles que vous avez eues, notamment au championnat du monde, plusieurs fois par équipe, parce que si c'est la première au jeu, c'est pas la première pour ce groupe, ou vous aviez déjà complètement évacué ça, vous, depuis longtemps?
Je pense que quand on arrive dans un sport, il y a un héritage, il y a une histoire avant nous que du coup dont on apprend, on s'approprie les codes et on essaye d'en défaire un peu ce qu'il en est. Astrid, elle est là avant moi, donc elle a vraiment vécu ça, où c'était très difficile, où les conditions étaient complètement différentes pour le fleuret féminin, elles étaient vraiment sous-estimées, elles n'avaient pas les mêmes opportunités, les mêmes moyens pour y arriver, les mêmes coachs, et puis même dans la mentalité, elles étaient vraiment très mal perçues. Donc je suis arrivée à ce moment-là, en 2009, dans une équipe qui était quand même... psychologiquement déjà atteinte par tous ces... Enfin, ses préconçus qu'elle traînait et ses bagages qu'elle traînait. Donc, il a fallu faire un gros travail, je pense, un gros travail pour construire cette équipe d'aujourd'hui. On en discute des fois aussi avec Pauline. Elle est arrivée des années un peu plus tard où elle n'a pas connu ça. Et justement, elle a connu une équipe déjà qui véhiculait de l'espoir, puisque à Londres, on n'était pas censé se qualifier quand moi, je rentre dans l'équipe. Et il y avait très, très peu de chances de se qualifier. On se qualifie sur la dernière épreuve qualificative. Donc, c'était très dur. Et ça, je pense que ça envoie un message fort aux générations d'après, en disant que c'est possible de se qualifier. Donc quand Pauline, elle arrive, elle se dit pas c'est impossible de se qualifier par l'équipe. Elle se dit, moi je peux me qualifier et je peux aller chercher une médaille. Et du coup, entre Rio et maintenant Tokyo, ce qu'on a vraiment vraiment travaillé, c'est aller chercher cette confiance, aller créer un collectif. Donc c'est avec les filles, mais c'est avec le staff, c'est avec tous ceux qui nous entourent, la fédération qui a commencé à croire en nous. Donc on a fait nos preuves, et c'est vrai que c'est pas toujours le cas d'arriver sur les Jeux Olympiques et de pouvoir obtenir ce pourquoi on est venu, ce pourquoi on s'est battu et ce qu'on mérite, en fait, parce que on a été à un moment des numéro une mondiale, mais il fallait le montrer sur le jour J, et on l'a fait, et ça, c'est aussi difficile. Donc une grosse histoire du fleuret féminin. Il y a plein d'athlètes qui ont été magnifiques et qui n'ont pas eu cette médaille, mais elles ont toutes contribué, en tout cas, à faire en sorte que notre arme, elle progresse et qu'elle en est là aujourd'hui.
Moi, je voulais revenir sur un autre moment fort de cette journée-là. Évidemment, la demi-finale, c'était très, très mal embarqué. Vous êtes mené 24-12, si je ne m'abuse. Je veux savoir, qu'est-ce qui passe dans vos têtes à ce moment-là? Comment on se remet d'aplomb, parce qu'il y a 12 touches d'écart? Et puis, vous nous racontiez aussi la toute fin de cette demi-finale.
Alors, c'est vrai qu'on entame mal le match. Et il y a un moment donné, dans le match, où je vois les filles baisser la tête un peu en se disant on passe à côté. Et à ce moment-là, moi, ce que je me dis, c'est pas qu'on peut remonter ou qu'on peut gagner ou quoi que ce soit. Ce que je me dis, c'est que c'est hors de question qu'on sorte de ce match-là et qu'on ne soit pas battu et qu'on n'y ait pas cru jusqu'au bout. Et c'est ce que je dis aux filles sur le banc. Je regarde aussi l'ordre des matchs et je réalise les relais qui vont suivre et je me dis que c'est vraiment, vraiment possible parce que c'est un peu spécifique, mais en gros, je savais que les filles avaient des clés sur les filles qu'elles allaient rencontrer sur les derniers relais et que moi, sur Ariana, sur le dernier relais, si on remontait, je pouvais faire la différence. Donc j'insuffle une première dynamique où je gagne un match où on est en positif et là, Pauline, elle fait un magnifique, magnifique relais avec une énergie qui fait basculer le match, en fait, psychologiquement, là où on leur envoie le signal que non, c'est pas fini, on est toujours présente, et là où elles commencent à douter, à se dire « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» Elles veulent continuer à se battre alors qu'on mène. Et en fait, il y a un grain de sable qui rentre dans la machine et qui change un peu cette dynamique de match, et on l'a saisi. Voilà, on a saisi ce moment, on a saisi cette dynamique. Anita, elle rentre après. Alors, à un moment donné, elle recolle au sport. Gros signal également, même si elle perd son match, ça voulait dire que voilà, on est toutes là, on est toutes présentes. Et moi, sur mon dernier match, elles avaient fait le taf avant et je voulais le faire pour elles, je voulais le faire aussi pour moi parce que j'ai été déçue des individuels. Il y avait plein de choses, plein d'émotions qui se mélangeaient en même temps. À Rio, je n'ai pas eu la chance d'avoir les équipes après mon épreuve individuelle. Et je m'étais promis que le jour où on a les équipes à Tokyo, je donnerais vraiment tout pour... Mais pour qu'on ait cette médaille et après je fais le vide, je rentre sur la piste et voilà, j'ai regardé le match à nouveau hier soir parce que je me souvenais pas de tout en fait. J'étais un peu dans cette zone où voilà, j'étais vraiment à fond dans le match. Et puis je vois aussi mes yeux à la fin du match sur la dernière touche, psychopathe, mais oui, j'ai cru sur chaque touche et aussi dans le match, j'ai senti que j'avais trouvé la solution et qu'elle doutait beaucoup.
C'était un super moment. Merci Isaora d'être passée dans l'heure olympique.
Merci beaucoup.
C'est un grand plaisir de t'avoir et on te souhaite le meilleur pour la suite. Salut. Samuel Kistori qui nous fait l'amitié de venir nous voir dans le podcast. Samuel qui revient tout juste de Tokyo. Il a passé la nuit dans l'avion et voilà, il sort de l'avion, il vient nous voir à Eurosport pour échanger un peu sur... malheureusement, on aurait aimé le voir arriver avec une médaille autour du cou. Ça ne s'est pas passé exactement comme il voulait. Donc Samuel Kistori, boxeur en moins de 57 kilos, qui s'est incliné malheureusement au point d'entrée face à l'Américain Duke Ragan. Ça n'a pas été aussi simple qu'on aurait aimé. C'est une décision plus ou moins controversée, Maxime.
Oui. Et j'ai envie de dire, déjà, j'ai envie d'avoir le sentiment de Samuel sur ce combat parce qu'on a senti après le combat que tu étais vraiment évidemment très déçu et qu'il y avait une part d'injustice dans cette décision.
Mais il y avait vraiment une part d'injustice. Le problème, c'est que voilà, premier round, ok, je lui donne et je perds, mais pas les 2 et 3. C'est impossible que le 2 et 3. On peut me donner 3-2 et le dernier on me donne 4-1, c'est incompréhensible. Normalement le dernier on va me donner 5-0, et du coup il y a un arbitre qui lui donne gagnant sur tous les rounds, l'Argentin, mais ce que je comprends pas, et que voilà, pour moi ça me dégoûte un peu de la boxe amateur. Et voilà, maintenant il faut faire face, on est dans le présent, on n'est plus dans le passé, et il faut aller de l'avant.
Tu as croisé quand même du monde un peu dans le village olympique. Dis-nous un peu les stars que tu as vues.
Djokovic.
T'as pris des photos ou pas?
Non, j'ai pas pris de photos. En fait, j'arrive pas à voir la personne et lui dire ouais, je vais faire une photo avec toi. En fait, il y a tellement de personnes, tellement de personnalités, qu'on voit les Kevin Durant, on voit des Gignac, on voit des Thauvin, des gens que tu vas pas voir d'habitude, tu vois, qu'on verra jamais ou comme ça. Donc non, c'est clair, on voit d'autres personnalités et c'est très bien. Les Jeux Olympiques, c'est ça aussi.
C'est sûr que croiser à la cantine Djokovic, Gignac et Kevin Durant, ça arrive pas tous les jours. En tout cas, c'est pas la cantine d'Eurosport, ça. J'ai jamais vu ça, moi.
Tu as quand même un peu échangé avec certains athlètes français, tu as pu quand même parler avec eux.
Oui, avec Clarisse et Samir Aït Saïd, parce que je les connais aussi. on arrive à échanger. J'ai vu, il y a eu un nageur qui m'a parlé aussi, qui m'a dit j'ai vu ton combat, je ne comprends pas comment ça se fait. Donc non, on échange avec l'Eto Sport, on essaie de savoir quand ils vont commencer la compétition, pour savoir quand ils passent à la télé. Et comme ils passent à la télé, comme c'est l'équipe de France, on est obligé de les soutenir. Pour nous, voilà, on veut ramener le plus de médailles. Je suis désolé de ne pas avoir ramené cette médaille parce que pour moi, je voulais faire une médaille et ça me, comme j'ai dit, ça me désole.
Merci Samuel Kistoeri qui est un des premiers athlètes hein, qui rentre de Tokyo. Dans Retour de Tokyo aujourd'hui, on fait encore plus fort que les autres jours. On a déjà reçu une médaille d'argent avec Isaor Attibus, un champion olympique avec Romain Cannon. Là, on reçoit une double médaillée olympique, or et argent autour du cou, la judokate Sarah Léonie Cizik qui est avec nous. Salut Sarah Léonie.
Salut.
Il faut quand même en parler et comment on se relève d'une déception comme ça, justement? Est-ce que c'est un travail mental seul ou est-ce que, évidemment, il y a beaucoup de l'équipe derrière qui aide à se relever de ce qui t'est arrivé en finale, en individuel?
On rappelle que tu as été disqualifié pour avoir pris appui sur ta tête, ce qui est interdit hein, au judo, et du coup, tu as bon, malheureusement été disqualifié, tu as pris seulement la médaille d'argent.
Oui, ce qui est arrivé, c'est sûr que c'est quelque chose qui est encore là dans ma tête et qui je pense, ne peut partir maintenant parce que pour moi, ça reste quand même toujours une injustice. Et je suis un peu dégoûtée d'avoir payé pour une faute que je n'ai pas faite. Mais c'est vrai que quand je suis montée sur le podium et quand j'ai vu ma médaille, ça, je me suis dit, mais t'es quand même vice-championne olympique, donc c'est pas rien. Et pour mes premiers jeux, vraiment, même si je m'attendais à la médaille d'or, je n'ai pas du tout repoussé cette médaille. Au contraire, je vais l'accueillir bras ouverts et je me dis que c'était vraiment pas. C'est pas comme si j'étais tombée vraiment et que j'avais perdu. Elle m'avait vraiment dominé tout le match. Donc vraiment, je me dis que c'est que du plus pour la suite et j'ai hâte de Paris 2024.
Et ça t'a nourri justement cette injustice pour l'équipe, pas pour l'épreuve par équipe?
Oui, c'est sûr que moi j'ai toujours dit que j'adorais les épreuves par équipe parce qu'on était vraiment tous ensemble très soudés et que l'énergie qui s'en dégageait était vraiment puissante, en tout cas pour l'équipe de France. Et donc oui, j'avais hâte vraiment de combattre. Comme j'ai dit, même après ma compète, j'aurais pu recombattre le jour d'après pour repartir pour les équipes. Donc oui, c'est sûr que ça m'a nourri, ça m'a donné une force en plus.
Il y a une image, j'aimerais revenir rapidement dessus. J'imagine qu'on t'en parle énormément. Quand Teddy Riner gagne son combat, c'est toi qui dois apporter le point décisif à l'équipe. Et là, on le voit, il te prend il prend avec ses mains, il te prend il prend ta tête, pardon, avec ses mains. Il te dit quelque chose, il te pose un baiser sur le front. À ce moment-là, c'est quoi ces mots d'encouragement?
c'est vrai que j'ai été surprise, mais dans un sens, ça m'a pas vraiment surpris parce que c'était aussi. On était tellement contents, on voulait tellement aller chercher cette médaille qu'ils voulaient. On s'est tous transmis cette énergie combat après combat en disant voilà, ça y est, j'ai gagné mon combat, c'est à toi maintenant, je te transmets cette énergie et ainsi de suite. Et c'est un peu ce qu'il m'a fait, c'est il m'a. Il m'a bien sûr, il m'a dit, vas-y, lâche-toi, c'est ton combat, c'est ton moment et fais-le pour nous, pour l'équipe. Et il m'a transmis cette énergie, vraiment, cette force dont on avait tous besoin pour aller chercher cette médaille.
J'imagine que le moment où tu comprends que tu as gagné, que tu apportes ce point décisif, ça doit être, au fond de soi, ça doit être incroyable, la sensation.
C'était vraiment, c'est. Des fois, on dit que les sportifs, ils sont drogués à cause de l'adrénaline qu'on a quand on combat. Et vraiment, c'est cette joie, vraiment, quand j'ai vu le décompte sur 0-0 et que vraiment, on voulait d'être champion olympique, c'était une joie, mais immense, vraiment. Et je suis contente d'avoir quand même vécu ça parce que la frustration d'avoir perdu en finale, je l'ai pas vécu, de finir sur un combat gagné. Donc là, finir comme ça, c'était magistral et j'attendais ça vraiment avec impatience.
Merci Sarah Léonie d'être
Merci
passée
beaucoup.
dans l'Euro Olympique. C'était un super moment et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Salut.
Merci beaucoup.
Dans notre séquence Retour de Tokyo, on accueille aujourd'hui Charlotte Im, skateuse parisienne qui a disputé l'épreuve de street. Comment ça va, Charlotte?
Ça va bien, je viens de descendre de l'avion.
Ça va, t'es pas trop déphasée?
Non, ça va parce que au Japon, là, il est 7 heures de plus, du coup, bah moi, c'est l'après-midi.
Ok, on sait que le skate c'était une première hein, au JO. Tu découvrais donc ça. Comment t'as vécu ça?
Bah, l'environnement des JO, c'était vraiment tout nouveau. Vraiment, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, d'avoir autant de sportifs au même endroit. Le village, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait plein de bâtiments avec les drapeaux de chaque pays sur chaque bâtiment. Tu rencontres beaucoup de monde, de plein de sports. Tu rencontres des stars, tu vois vraiment beaucoup plus de monde que ce qu'on voit d'habitude lors des compétitions de skate. Après, le côté purement skate, quand on allait au skatepark en bus, on avait 10 minutes de trajet. Et ben, ça ressemblait à toutes les compétitions qu'on a pu vivre. On avait le skatepark, on avait un endroit où on pouvait se reposer, on pouvait manger, boire. Et puis après, on allait sur le skatepark, on skatait, on faisait nos entraînements. Puis la compétition, c'était le même format de compétition que ce qu'on a d'habitude. Du coup, c'était vraiment similaire à ce qu'on vit toujours. Et quand j'étais sur la compétition, je ne sentais pas que c'était vraiment différent par rapport à une autre compétition. Mais tout le général, tout l'alentour était totalement différent. C'était une très bonne expérience à vivre.
Je ne savais pas que des championnes pouvaient être aussi jeunes. Qu'est-ce qui explique une telle précocité dans ce sport? Parce qu'il faut quand même des années, j'allais dire, de préparation et d'entraînement. Et comment on devient champion olympique à 13 ans, par exemple?
C'est vrai qu'il faut beaucoup d'années. C'est très long pour apprendre le skate. Mais les trois jeunes que vous avez vues, elles ont toutes commencé très, très, très jeunes, le skate. Et elles se sont beaucoup entraînées dans des skateparks dès le plus jeune âge. Alors qu'on est beaucoup skateurs un peu plus âgés, avoir tous commencé dans la rue, être allés un petit peu plus tard dans les skateparks. Et c'est vrai qu'elles ont une façon de s'entraîner vraiment en skatepark. Elles ont tous les skateparks possibles. Elles ont des barres de toutes les tailles, des petits obstacles pour apprendre. Elles sont dans des écoles de skate et donc elles ont progressé très, très vite. Après, elles avaient sûrement une grande motivation. Et il faut se rendre compte aussi que leur gabarit leur permettent quand même de plus encaisser les chutes que nous, parce que dans le skate, on tombe forcément. Et là, si vous avez vu le skatepark des JO, il était quand même gros. La grosse partie, c'était 12 marches. Donc 12 marches, c'est quand même assez énorme. Et du coup, moi, par exemple, j'avais un quota de chute. Je ne peux pas tomber plus de 3-4 fois dessus, parce que sinon, le lendemain, je ne peux pas marcher. Alors qu'elle, bah, elle tombait toute la journée sur les 12 marches. Elle se relevait. Le lendemain, elle skatait à un super niveau. Je pense que leur capacité de récupération, leur souplesse, leur légèreté, bah, ça les aide à pouvoir pousser plus loin. Parce que là, il y a beaucoup des adultes qui ont participé à cette finale ou au qualif, qui auraient pu être favorites pour un podium, mais qui étaient toutes blessées en fait.
Merci Charlotte d'avoir
pris le temps. Merci à vous pour l'invitation.
Dans Retour de Tokyo aujourd'hui, on reçoit Enzo Lefort, champion olympique au fleuret par équipe. Salut Enzo.
Salut, salut.
Ça fait plaisir de te voir. On est content de continuer notre série, de recevoir des champions et médailles olympiques. On t'aurait reçu il y a 5 ans, ça aurait été avec une médaille d'argent autour du cou. Cette fois-ci, c'est avec une médaille d'or. Tu as gravi un échelon et j'imagine que ça te remplit de joie.
Ouais, c'est sûr. La médaille d'argent à Rio, enfin, c'était une médaille olympique. Si un jour on avait dit que j'allais être médaille olympique, je pense que je ne l'aurais jamais cru. Donc, j'ai quand même savouré. Mais là, être sur le toit de l'Olympe, c'est un sentiment inexplicable. En fait, je suis toujours pas réalisé. On est quoi, à 48 heures de notre titre. Je crois que je ne réalise toujours pas.
Et pour parler de toi plus spécifiquement, dans cette finale, t'as été je crois que tu finis à 17-7, je crois, sur tes trois relais.
Ok.
Et on a vraiment eu le sentiment que tu marchais sur l'eau. Vous avez tous apporté votre pierre à l'édifice, évidemment, mais on t'a senti là vraiment... très 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 solide. Est-ce que tu as eu toi cette espèce de, je sais pas, de sentiment de plénitude un peu ou...
Ouais, c'est sûr que maintenant que vous m'en parlez, oui, c'est sûr que il y a des touches que je me disais bon, ok, c'est comme ça. C'est en fait, je me voyais parfois trop loin, parfois trop près, puis en fait ça se goupillait. En fait, parfois j'ai l'impression de me voir un peu au ralenti, et puis même j'avais une certaine sérénité. D'habitude, je suis pas très à l'aise en défense. Là, vu qu'on était devant tout le temps, j'ai accepté, mais limite en étant à l'aise, quoi, de défendre, alors qu'en face, ils essayaient de m'agresser, quoi. Mais ouais, je savais que de toute façon, si je reculais, ça allait être difficile pour eux de me toucher. Et après, en allant vers l'avant, je ne me précipitais pas. Ouais, c'était. Je ne sais pas, après, je pense que j'ai puisé cette sérénité aussi dans mes coéquipiers. C'est-à-dire qu'ils me rassuraient, ils m'insufflaient de la confiance. Et je pense que c'est ça qui fait notre force aussi, c'est qu'on est un groupe, on se connaît très bien chacun les uns des autres. Et on sait nos faiblesses, mais aussi nos forces. Et on sait comment insuffler de la confiance et comment remettre dans le droit chemin quand ça ne va pas, etc. Et je pense que c'est... Ouais, je pense qu'il y avait ce groupe qui vit bien, qui insuffle cette sérénité, et c'est contagieux.
Tu parles de sérénité, de plénitude. Est-ce qu'on peut profiter d'une finale olympique quand on a pris une avance comme ça et de se dire, voilà, on y va tout droit? Est-ce que, ou sinon, il y a toujours le sentiment d'urgence qui dit, non, il faut conclure, voilà, tout simplement.
Il y a quand même ce sentiment d'urgence. En plus, on est détraumatisés. On sort de Rio 2016, on a mené le match sur les Russes en finale tout du long et on se fait remonter sur l'avant-dernier relais. Donc voilà, on a ce petit traumatisme qui était toujours présent dans la tête. Et quand j'étais à 39, c'est quoi, c'est 39-24, là, je me suis dit, OK, c'est ta dernière touche du relais. Kiff. Là, je me suis autorisé à kiffer à ce moment-là. Et Arwan, pareil, il rentre à 40-24. Et là, il se dit, ben ouais, je vais profiter un peu. Et c'est assez rare pour le signaler de gagner un match avec autant d'avance. Donc, ça arrive tellement rarement que ouais, on a pu profiter un petit peu.
Un petit dernier mot quand même, une anecdote ou quelque chose qui se passe dans le village, parce qu'on aime bien savoir un peu ce qu'il y a, les coulisses.
Non, c'est une bulle.
C'est ça. T'as vu des stars, dis-nous un peu.
Ah ouais, j'ai croisé Novak Djokovic, mais le pauvre, il ne peut pas faire 2 mètres à la cantine sans se faire embêter. Donc, moi, j'ai eu ma photo avec lui en 2012, donc cette fois-ci, je l'ai laissé tranquille. Mais non, moi, je suis un grand fan de basket et j'ai croisé Rui Hachimura, le japonais, qui était porte-drapeau. Du coup, il a pris une photo avec lui et aussi Alison Félix. Alison Félix, c'est une athlète que j'admire depuis ses premiers Jeux en 2004. Moi, je suis un fanat de sport. Enfin, je regardais les Jeux tout le temps. En fait, je n'ai jamais aussi peu suivi les Jeux que depuis que j'y participe, parce qu'on est dans notre truc et on n'a pas forcément toutes les chaînes. Et puis surtout, aussi quelque chose au village, on a accès à tous les canaux qui diffusent les épreuves, mais il n'y a pas les commentaires. Et c'est vrai que sans les commentaires, ça enlève un peu de saveur. Et du coup, ouais, j'ai croisé Alison Félix à la cantine et ouais, je suis allé lui demander une photo. Elle est trop sympa. Elle a enlevé son masque. Elle m'a souhaité bonne chance pour mon épreuve. Enfin, voilà, c'est vraiment le type de champion qui représente à merveille les valeurs olympiques.
Super. Merci Enzo d'être passé dans l'heure olympique. Je sais que tu as une journée marathon encore. Tu vas fêter aussi ça au Trocadéro avec tous les autres athlètes. Profite de ces moments. Salut.
Vous en avez pris l'habitude, voici notre séquence retour de Tokyo. On a de la chance, on a eu Enzo Lefort hier, aujourd'hui Jean-Ki Campois, 2 médaillés d'or de suite. On est plutôt vernis. Jean, comment ça va?
Bah, très bien, voilà, je suis extrêmement heureux d'être devenu champion olympique il y a 2 jours. Donc beaucoup de satisfaction et un gros soulagement d'avoir réussi à conquérir cet objectif-là que je convoite depuis maintenant 5 ans.
Est-ce que votre expérience de Rio, puisque donc on rappelle que vous étiez médaillé d'argent déjà il y a 5 ans, alors que vous étiez très jeune, est-ce que vous avez senti là vraiment une différence dans la manière dont vous avez géré justement cette émotion, ce stress dans cette deuxième finale olympique?
Oui, elle a été difficile aussi à tirer, il ne faut pas se mentir. Alors c'est vrai qu'à Rio, c'était mes premiers Jeux, j'avais moins d'expérience, je connaissais moins mes adversaires. Donc là, c'est vrai que j'ai abordé cette finale avec plus de confiance et plus de sérénité. Voilà, j'avais vraiment confiance et je savais que j'avais le potentiel pour gagner. Donc je suis arrivé avec plus de relâchement et de sérénité. Après, c'est clair que dans l'instant, c'était également très très dur à tirer. Mais après, je pense que voilà, l'expérience de Rio, donc une finale olympique et qui plus est médaillée, m'a forcément aidé pour venir chercher l'or hier.
Et Jean, est-ce que vous ressentez déjà une différence d'impact entre votre médaille d'argent il y a 5 ans et cette médaille d'or, le fait d'être champion olympique?
Bien sûr.
Est-ce que vous le ressentez ça déjà quelques jours après?
Bien sûr, c'est vrai que voilà, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, etc., ça a eu un bel impact. Après, ça reste, voilà, quand on est médaillé d'argent, quand on est champion olympique, ben on est champion olympique, il n'y a personne devant. Donc, bien sûr qu'il y a une différence. Mais voilà, médaille d'argent à Rio, c'était déjà exceptionnel. Et puis là, j'ai réussi mon objectif.
Est-ce que vous avez conscience de rentrer d'une certaine manière déjà dans l'histoire du sport français? Et je pense que même si le tir n'est pas la discipline forcément la plus médiatisée au quotidien auprès du grand public, on se souvient de quelqu'un comme Jean-Pierre Amat qui a été champion olympique. C'est un nom dont on se souvient. Donc, je pense que quand on est champion olympique, de toute façon, on entre dans l'histoire. Et en plus, comme Maxime l'a dit, vous êtes encore très jeune. Donc, potentiellement, vous pouvez vous construire un palmarès très, très impressionnant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte pour vous, que vous avez dans un coin de la tête, cette possibilité de marquer l'histoire du sport français?
Bien sûr. Voilà, c'est vrai que, entre guillemets, il y a toujours mieux à faire, il y a toujours plus à gagner. C'est vrai que voilà, tant qu'on n'a pas fait 600 sur 600 et 40 sur 40, bah voilà, on n'est jamais satisfait, j'ai envie de dire. Et donc, bien sûr, tant qu'on n'a pas gagné, bah, forcément, à chaque fois qu'on s'aligne sur des JO, si on ne gagne pas la médaille d'or à chaque fois, il y a forcément une frustration. Donc, bien sûr que non, j'y pense pas. Moi, je reste quelqu'un de passionné. Voilà, je suis très heureux au quotidien de faire ce que je fais. Après, voilà, les records et les statistiques, tout ça, bon, ça me passe un peu au-dessus. Mais bien sûr que ça, voilà, ça, je suis rentré dans l'histoire et je poursuivrai certainement.
Dans 3 ans, l'ambiance, elle sera formidable. Donc, on se retrouve au même voilà. endroit, Jean, avec une autre médaille d'or.
C'est
ici,
ça.
À Paris, ce sera formidable. Merci d'être venu.
C'est ça. Merci à vous.
Merci, Jean.
Après Jean Quiquempoix, on a le plaisir de recevoir Mourad Aliyev qui a boxé en plus de 91 kilos. Mourad, c'est une image des Jeux qui restera et une immense injustice puisque tu as été disqualifié en quart du tournoi olympique pour coup de tête présumé. On a envie de te demander déjà comment ça va.
Ça va très bien, merci de me recevoir.
C'est digéré ou ça reste encore compliqué?
Non, c'est... comment dire? Je suis toujours contre la décision et je serai toujours contre tant que je n'aurai pas eu ma médaille. Mais sinon, voilà, il faut repartir de l'avant et rester fort et prendre ça comme une épreuve.
Tu dis que quand tu es rentré pour ton quart de finale, tu avais la peur au ventre et que tu sentais en gros que voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver aujourd'hui. Ça veut dire que vous étiez, vous, l'équipe de France, dans un sentiment de quoi, de qu'il y avait une sorte de...
Voilà, d'injustice ou de quelque chose contre nous, parce que comme je dis, j'ai dit à John, même à Sofiane, parce que Samuel était parti, j'ai dit à Sofiane et à Bilal qui étaient restés, donc eux ils boxaient du samedi, et moi du dimanche, et moi du vendredi, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer, c'est sûr il va m'arriver un truc, et moi c'est sûr il va m'arriver un truc, et ils m'ont dit non mais t'inquiète et tout. J'ai dit la même chose à John, et John il voulait calmer le jeu, il m'a dit non t'inquiète, mais on est parti avec la peur au ventre, comme quelle farce ils allaient nous sortir. Et je suis pas étonné en fait, je m'attendais franchement à cette décision.
On a reçu, je crois que c'est notre premier invité d'ailleurs, Samuel Kistohiri, quand il est rentré. On a parlé avec Sarah Ouramoun, qui est consultante pour Eurosport. On a parlé évidemment de l'arbitrage en boxe. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas et j'ai l'impression que c'est un truc qui suit globalement les JO, toujours le même problème. On a beau changer les façons de faire, c'est toujours un problème.
Franchement, c'est l'arbitrage, des fois, franchement, c'est n'importe quoi. Moi, je parle de mon avis personnel. Si je veux vous donner, citer un exemple, tu peux mener tout un round et accélérer sur 20 secondes et remporter le round. En fait, l'œil des arbitres, il s'habitue. Par exemple, si on va à 100 km/h, bah, au début, c'est surprenant, mais après, l'œil, il s'habitue. C'est comme quand on roule en voiture, à un moment, on est à 150, on dit ça va vite, mais à un moment, on s'habitue. Et c'est ça qui est dangereux. Et l'œil, il s'habitue jusqu'à ce qu'en fin de round, il suffit que quelqu'un accélère pour qu'il fasse comme s'il avait mené le round, alors que l'autre, ça fait 2 minutes 30 qui est en train de mener. C'est ces choses-là qui sont à revoir, parce qu'en plus la boxe olympique c'est un sport important, c'est un des sports où il y a plus, ça fait beaucoup de médailles, et du coup voilà, il faut revoir tout ça.
C'est quoi la suite pour toi, court, moyen et peut-être plus long terme, on va dire dans 3 ans par exemple avec les prochains jeux?
Voilà, comme je disais, ça dépendra des propositions. Là, pour l'instant, si on me propose de faire Paris, je serai toujours partant. Donc, j'ai toujours une vengeance. Je veux minimum le bronze, cette médaille. Parce que faire les Jeux Olympiques, c'est une quête pour chaque sportif. Tu peux être champion du monde en pro, avoir toutes les ceintures, mais tu auras toujours cette envie d'avoir la médaille olympique. Et moi, cette option, elle est toujours à considérer. Mais sinon, là, tu prends un peu de repos, étudier toutes les propositions et passer pro. Parce que là, c'est le meilleur moment. Là, il faut que je m'exprime. Tout le monde a découvert Mourad Aliyev. Et voilà, là, je vais montrer au monde entier qui je suis et faire une carrière pro. Et voilà. Et en plus, on a de la chance, on peut revenir pour faire les jeux. Ouais. Les pros. Donc, c'est parfait, quoi.
Merci, merci Mourad. Avant merci de se quitter, je sais que Cyril voudrait bien essayer un petit round. Surtout pour tester à la boxe, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais on va filmer, on aimerait bien voir ça.
Ah, je suis pas sûr.
Je suis en vacances.
Moi aussi, ça tombe bien. Ouais. Oh, la chance.
Bon, merci beaucoup, c'est très, très, merci très sympa.
Merci
beaucoup de m'avoir reçu. Prenez soin de vous.
C'est le moment de la séquence Retour de Tokyo. Aujourd'hui, c'est un immense honneur d'avoir Samir Aït Saïd parmi nous. Comment ça va, Samir ?
Bonjour, bah écoutez, ça va très bien. Heureux d'être de retour en France, ça fait du bien.
J'ai une autre question, un peu de profane par rapport à ta finale et ta blessure. Un œil qui n'est pas avisé, comme le mien, je ne suis pas un spécialiste de la gymnastique. Quand je regarde ta finale, je ne vois pas que tu es diminué. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi sur quel mouvement, sur quel type de mouvement ça te pénalise cette blessure-là et qu'est-ce que ça te fait perdre en termes de points, ça, qu'est-ce que tu aurais pu faire comme performance si tu n'avais pas été blessé?
Alors honnêtement, cette douleur, je crois qu'elle a été pendant une minute, je ne sais pas combien a duré mon mouvement, mais cette douleur elle a été de 11 sur une échelle de 10. Ça a été horrible du début jusqu'à la fin. Quand mon coach me lève pour attraper les anneaux, au moment où je vais attraper les anneaux, poignard. Et là, j'ai commencé à me dire, ça va être très, très long. Ça va être très, très long. Et à chaque fois que je faisais une force, je sentais vraiment sur mon biceps, ça faisait crac, crac. Comme une fermeture éclair. Ça faisait pareil, crac, crac. Et là, je me suis dit, mais à quel moment ça va lâcher? Et en fait, il était hors de question de montrer ce signe de faiblesse à mes adversaires. Mais ils l'ont remarqué, mine de rien, parce qu'ils ont vu que je n'étais pas échauffé. C'est ça que je me
demandais. Est-ce qu'un œil avisé le voit?
Ils l'ont vu. Ils l'ont vu parce que pendant qu'eux s'échauffaient, moi, j'étais avec le staff médical en train d'essayer de calmer cette douleur. Donc, ils se sont dit, mais attends, mais pourquoi lui, il ne s'échauffe pas? Et ils ont capté quand le kiné m'a fait un garrot à la fin. Mmh. Je les voyais parler en se montrant, en se touchant l'épaule. Et oui, ils ont vu. De toute façon, c'est comme si tu regardes la perche et que tu te dirais, bah, regarde, Renaud, il ne s'échauffe pas. Tu le vois avec le staff médical, tu te poses des questions. Bah, c'est exactement pareil. Et je n'ai pas pu m'exprimer à 100% parce que quand j'appuyais, je compensais vachement avec l'autre épaule. J'appuyais plus sur la droite que sur l'autre. Donc, c'est comme si je te demande... de me mettre une claque, mais tu peux pas faire ça pour mettre ta claque, tu es obligé de faire ça. Tu vas moins me faire mal, tu seras moins puissant. Bah, c'est exactement pareil sur les anneaux.
Je voudrais revenir sur un autre moment fort de tes Jeux Olympiques, évidemment la cérémonie d'ouverture, porter le drapeau. Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant dans le stade?
Une fierté immense. Je suis quelqu'un qui est très patriote et déjà porter le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur. Alors là, porter le drapeau, défiler avec le drapeau, être porte-drapeau, c'est un pur kiff. On a vécu ce moment à fond, on a adoré et on ne s'est pas pris la tête, ça a été vraiment bonne ambiance. On m'a chauffé pour faire un salto, j'ai fait mon salto et ensuite de ça, on a fini en apothéose en chantant cette Marseillaise haut et fort en plein milieu du stade olympique, c'est énorme.
J'avais une question sur le salto, justement. Je veux savoir s'il était prémédité. Donc, j'ai l'impression qu'il n'était pas prémédité, mais qu'on t'a bien chauffé.
Non, je ne suis pas parti. Dans le bus, je ne me suis pas dit, bon, je vais faire un salto. Non, non, non. Ça s'est fait tellement naturellement dans l'ambiance, en fait. Au début, on se faisait un battle avec les Américains qui étaient juste devant. Ils chantaient tout ça. Et nous, on a chanté encore plus fort la Marseillaise. Voilà, en fait, c'était. Bon, et quand on rentre, vas-y, tu fais quoi, Sam? Tu fais un salto? Que je fasse un salto? Je vais faire un salto, il n'y a pas de problème. Non, non, ça a été vraiment bonne ambiance, rien de prémédité, tout à l'instinct. Ça a été franchement un moment magique, magique.
Merci Samir, merci beaucoup d'être venu, immense plaisir. J'ai envie de te dire, on se retrouve ici dans 3 ans, même, peut-être pas même jour, mais à peu près même moment, et avec évidemment la médaille.
Oui, parce que là j'ai la médaille en chocolat.
C'est pour dans 3 ans.
Premier. Je parle
merci
pas
beaucoup,
dans le
Samir.
Merci
bientôt.
Salut.
Dans Retour de Tokyo aujourd'hui, on reçoit Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, médaillée de bronze en voile en 4,70. Ça fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes parmi les dernières qu'on reçoit. On a reçu beaucoup d'invités. Une nouvelle médaille de bronze pour la voile. J'imagine que ça doit vous rendre hyper fier.
Ouais, c'est une super belle médaille. Moi, c'est ma première médaille olympique. Camille, la deuxième. Mais ouais, c'est beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. Et ça fait du bien de rentrer en France pour pouvoir fêter ça.
Moi, j'ai une question un peu de béotien. Je lis souvent, avant la medal race, des gens dire « Nous, la medal race, c'est notre spécialité, on est très bon là-dedans. » Je sais que Charline Picon disait ça. Je crois que vous aviez dit ça aussi, que c'était un de vos points forts. Qu'est-ce qui différencie la medal race, en dehors du nombre de concurrents, des autres régates? Qu'est-ce qui est si différent?
C'est hyper différent. Déjà, pour le nombre de concurrents, on n'est plus que 10, hein, donc ça change quand même beaucoup la manière de naviguer. Et puis, la durée de la manche aussi, nous, une manche classique, ça dure entre 50 minutes et une heure normalement. Là, c'est un format qui dure 20 minutes et surtout, les points, ils comptent double. Donc, il y a vraiment un gros enjeu sur cette manche-là. Nous, c'est vrai que c'est devenu au fur et à mesure des années dans notre équipage un point fort parce que c'est une compétition où le stress est très important parce qu'il y a, enfin, c'est pour ça que ça s'appelle medal race. Hein, les médailles, elles se décident vraiment sur cette manche-là. Et nous, on avait réussi à faire ce travail, de travailler pour savoir naviguer proprement sous pression. Et c'était devenu un point fort par rapport à nos autres concurrentes. Après, chaque scénario de medal race est différent et c'est vrai que là, on était dans une position qui était très difficile parce que l'Anglaise avait beaucoup de points d'avance et pour elle, en fait, c'était très facile de nous contrôler, de nous marquer sans prendre de risque en fait pour sa position. Donc, on va dire qu'on avait plutôt tout le monde contre nous plutôt que... Enfin, on avait tous les gens qui voulaient que défendre leur place et nous, on n'était pas dans la position la plus facile à gérer en termes de points.
Ouais, vous étiez en tête, en fait, vu que les Anglaises étaient assez confortables, vous étiez en tête de l'autre course, quoi. Voilà, celle pour les médailles.
Et puis, le fait que l'Anglaise ait beaucoup de points d'avance, on était vraiment les personnes pour elle les plus dangereuses et donc ça fait qu'on avait un bateau qui pouvait complètement dédier sa manche à essayer de nous faire rater l'autre. Ouais.
Vous avez vécu plusieurs jours au village olympique. On entend beaucoup de choses. Il y a pas mal d'athlètes qui sont venus nous raconter un petit peu les coulisses. Racontez-nous un peu qu'est-ce que vous avez croisé comme star, comment ça marche.
Déçu, hein.
Ah bah alors.
Ouais, vous allez être déçus parce qu'on a passé que quelques heures au village olympique. En fait, nous, on était dans un hôtel proche de la marina d'Enoshima entre membres de l'équipe de France de voile. Donc, on a seulement eu l'autorisation, quand la compétition a été terminée, d'aller au village. Donc, on a pu découvrir le village deux jours. Voilà, et on a croisé quelques athlètes, mais pas de grosses stars, hein, je crois, à part les athlètes français, évidemment, encore en lice.
Ça, c'est une petite frustration, ça, d'être un petit peu en dehors du reste des athlètes, où vous avez un peu l'habitude souvent en voile, non?
On a l'habitude en voile quand même de pas beaucoup se mélanger, on va dire, avec les sports de terre, quoi. Mmh. C'est sûr que c'était une petite frustration, surtout au moment aussi de la cérémonie d'ouverture, qu'on n'a pas pu faire. Du coup, qu'on était vraiment isolés dans notre bulle sanitaire à une heure de Tokyo. Après, on est quand même contente d'avoir pu faire cette petite sortie le dernier jour au village olympique. C'était un peu notre journée à Disneyland. C'était cool, mais bon, là, va falloir vivre d'autres Jeux olympiques maintenant pour aller découvrir le reste du village.
Ça tombe bien, c'est dans 3 ans, à Paris 2024. On vous souhaite le meilleur. Je sais que vous allez repartir là dans vos familles du côté de Brest pour fêter vos médailles. Encore félicitations. Merci d'être venu dans l'heure olympique. Et puis, on se dit à bientôt. Salut.
À bientôt, merci.
Merci, merci beaucoup.
Dans Retour de Tokyo, aujourd'hui, on reçoit Florent Manodou, médaillé d'argent sur 50 mètres nage libre. Salut Florent.
Salut.
Est-ce que tu réalises, Florent, qu'avec ces 3 médailles consécutives sur 50 mètres, tu as pris encore une autre place dans l'histoire de la natation française et même du sport français?
Je commence à en prendre conscience parce que...
Tout le monde te le répète.
Parce que tout le monde me le répète, en fait. Après, quand on fait les Jeux, on ne pense pas forcément aux Jeux d'avant ou à ceux d'encore d'avant. Donc, on se prépare pour la compétition. On fait du mieux possible. Quand on décroche une médaille, c'est incroyable. Mais je pense que je ferai la rétrospective de tout ça quand j'arrêterai. Et je pourrais me dire, c'était bien. J'ai j'ai fait cette médaille à ces jeux, celle-ci à cela. Et je me rendrai peut-être un petit peu plus compte maintenant. Le retour en France, ouais, me fait prendre conscience que j'ai fait quelque chose de beau. Après, il y a plein de sports qui font, plein de sportifs qui font de belles choses. Quand je pense aux volleyeurs ou aux handballeurs, juste pour parler d'aujourd'hui, c'est vraiment grand.
Est-ce que tu les as peut-être plus savourés encore ces jeux? Je sais que tu avais dit qu'à Rio, tu avais peut-être pris moins de plaisir parce qu'à Londres, tu étais la divine surprise, tu étais l'outsider. À Rio, tu avais une énorme pancarte. Et je me souviens que tu avais dit que tu avais moins apprécié. Là, comment tu les as vécus ces jeux?
En termes de compétition et en termes d'émotion personnelle, c'était les plus beaux jeux pour moi parce que les premiers, c'était bien, mais j'étais jeune, je découvrais un petit peu tout ça et ça a toujours une saveur différente quand on en a fait plusieurs. Les deuxièmes, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué avec le statut de favori et là, se retrouver à 30 ans après un gros break et un beau challenge en finale et en plus avec une médaille, c'est... Niveau émotionnel, c'était la plus belle chose que j'ai vécue, je pense, parce que le chemin était atypique, parce qu'il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de bonheur. Et ouais, c'était les plus beaux et ceux auxquels j'ai pris le plus de plaisir, où j'ai beaucoup souri aussi, on m'a vu beaucoup sourire. Et cette médaille d'argent est incroyable.
À partir du moment où tu as décidé de revenir, quand est-ce que tu as senti que ton pari pouvait être gagnant? Est-ce qu'il y a eu un moment clé ou ça a été quelque chose de très progressif? Comment tu as vécu ça?
Le jour où j'ai décidé que je voulais reprendre, c'est le jour où je me suis dit que c'était possible. Après, il y a eu, dès la première compétition, un super temps où je me suis dit c'est bon, c'est faisable, tu vas encore progresser et ça ira. Et ensuite, il y a eu des moments un petit peu plus compliqués où cette année, chronométriquement, n'a pas été excellente. Où j'ai fait même cinquième au championnat d'Europe il y a 2 mois, je crois. Ouais, à peu près 2 mois. Et là, je me suis dit, relâche-toi, tu verras bien ce qui se passe. C'est les Jeux, ce sera une autre compétition. Et j'ai bien fait de l'aborder comme ça parce qu'autrement, ça met trop de pression. Et s'entraîner des années pour être en finale olympique et avoir peur de la nager, c'est dommage.
Et pour finir, la suite pour Florent Manaudou, c'est quoi maintenant alors?
J'aimerais bien aller à Paris, être encore en finale à Paris et avoir ma chance pour avoir une 4e médaille, j'espère.
Ouais, ce serait pas mal. Hein.
L'heure olympique, c'est fini. Un grand merci aux équipes qui ont contribué au succès de ce podcast. Mes acolytes Maxime Dupuis et Laurent Vergne d'abord. Et tous les invités, journalistes, consultants, athlètes qui ont participé à cette belle aventure. Retrouvez tous nos podcasts sur eurosport.fr. À très vite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.